Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et la réouverture des commerces demain sous très haute surveillance. Pas question de faire n'importe quoi, il faudra respecter les jauges.
En cas d'infraction, le commerçant sera sanctionné.
Protocole sanitaire qui laisse perplexe beaucoup de professionnels. Un client pour 8 mètres carrés, sauf si c'est un couple. Là, on a droit à 2 qui compte 1, ou à 3 ou 4 si c'est une famille qui compte 1 également. Bref, ça va pas être facile à gérer.
Le pataquès également des stations de sport d'hiver. Les Français privés de ski, mais pas les Suisses ou les Autrichiens.
Au fait, est-ce qu'on peut nous empêcher d'aller skier chez nos voisins?
La polémique autour de l'article 24. Après s'être mis à dos les parlementaires de sa majorité, le Premier ministre renonce à confier à une commission indépendante la réécriture de cet article controversé.
Dans ce journal également, on verra que l'Europe ouvre la porte à des sanctions contre la Turquie. Et puis le retour des supporters au Parc des Princes. Enfin, pas tout à fait, mais presque.
La tendance météo avec Anissa. Prudence dans le sud demain.
Oui, nous avons, Julien, ce soir, 3 départements placés en vigilance orange pour pluie, inondation. Les pluies vont même s'accentuer demain après-midi dans le sud. Sur le reste du pays, nous aurons de la fraîcheur et du soleil. Je vous dis tout à la fin du jour.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils espèrent rattraper donc le temps perdu. Les commerces dits non essentiels vont donc rouvrir dès demain matin.
Et 7 jours sur 7, jusqu'à Noël, mais ce sera d'autant plus compliqué pour eux de rattraper ce temps perdu que les nouvelles normes sanitaires sont très strictes, Virginie Salmen.
Oui, dans les centres commerciaux, il devra y avoir un contrôle à l'entrée générale et un autre à la porte de chaque magasin. Le nombre maximum de clients devra être respecté, y compris dans les allées, de façon à ce qu'il y ait 8 mètres carrés par client partout. Les commerçants devront faire attendre le surplus de clients à l'extérieur. C'est à eux de faire respecter la jauge dans leur boutique. Il y aura des contrôles, assure le ministère de l'Intérieur, et en cas de dépassement du nombre de personnes autorisées, le commerçant risque une amende de 135 euros et une mise en demeure ou une fermeture administrative partielle ou totale. Les clients peuvent aussi être verbalisés dans des cas extrêmes. Si par exemple ils forcent le passage à l'entrée d'un magasin ou bien s'ils refusent de sortir s'il y a trop de monde, ils risquent seulement dans le cas où ils violeraient intentionnellement la jauge une amende de 135 euros qui peut être majorée en cas de récidive jusqu'à 3 750 euros et 6 mois d'emprisonnement.
Merci beaucoup Virginie Salmen. Alors l'application de ce protocole sanitaire, elle angoisse un peu les commerçants. Comme le confie Franck Maté, il est le porte-parole de Jouet Club. Car quand on parle d'un client pour 8 mètres carrés, comme vous nous l'expliquez Virginie, bien c'est pas tout à fait vrai. Écoutez ce casse-tête en perspective.
Dans le décret que le gouvernement a publié, on n'est plus sur une personne, mais on est sur une unité sociale. Donc, si vous avez une famille avec deux parents et deux enfants, ce qui fait 4 personnes, eh bien, en fait, c'est une unité sociale. Donc, c'est un qu'il faut mettre dans notre jauge à nous. Ben, l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'identifier qui sont les personnes qui rentrent dans le magasin, si c'est la même famille ou pas la même famille, pour les compter de façon correcte. Donc, peut-être qu'au lieu d'avoir une personne pour 8 mètres carrés, en fait, il y aura peut-être une personne pour 6 mètres carrés. On va s'adapter, tout simplement. Finalement, ce qui compte, c'est le nombre de clients qui vont pouvoir passer en caisse dans les magasins. Donc, le fait de dire on va considérer qu'une famille, c'est égal à 1, eh bien, au final, ça va nous permettre de pouvoir servir plus de familles. Et donc, ça va apporter plus de satisfaction pour les consommateurs.
Le porte-parole de Jouet Club avec Élise Dangean.
Les messes, Isabelle, pourront reprendre dès ce week-end, mais avec une jauge limitée, 30 personnes.
Et la Conférence des évêques de France a déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester cette mesure.
Compliqué également ou pas pour la gestion des vacances de Noël. Pas de ski pour les Français, mais certains de nos voisins, eux, ouvrent leurs pistes.
Alors, comment faire pour que des Français n'aillent pas skier en Suisse ou en Autriche? Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Ça ne va pas être simple, hein?
Non, alors en théorie, il y a deux manières d'y parvenir. La première, c'est d'obtenir que toutes les stations européennes restent fermées jusqu'à début janvier. Ça ne peut se faire que par la persuasion, ce n'est pas Bruxelles qui va le décréter. Or, l'offensive menée par la France ou l'Allemagne est moyennement appréciée hein, en Suisse et en Autriche. Certes, Jean Castex, le Premier ministre, a parlé à la présidente suisse ce matin, mais ce sont les cantons qui décident. Et pas question de fermer à Noël, assure par exemple le Valais où se situent entre autres les stations de Zermatt et de Crans-Montana. En Autriche, l'économie des sports d'hiver pèse lourd. Là aussi, on est vent debout. Ça, c'est la première piste, si j'ose dire. Il y en a une deuxième, ça serait d'instaurer une quarantaine dissuasive au retour pour les Français qui partent dans des régions jugées sanitairement risquées. Ça, c'est autorisé par les règles européennes, glisse d'ailleurs la Commission européenne. L'Allemagne l'a déjà fait, car la Suisse et l'Autriche font partie des pays très touchés par le coronavirus. À ce stade, Paris n'envisage pas d'en arriver là, mais la décision n'est pas prise, dit-on au gouvernement.
Et vous continuez à suivre bien sûr le dossier. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h07, la suite de votre journal avec toujours Isabelle Mille. Et bien sûr, il y a de la friture sur la ligne aujourd'hui au sein de la majorité. En cause, cette commission indépendante à qui Jean Castex voulait confier le soin de réécrire le fameux article 24.
Tellement de friture que Matignon a dû calmer le jeu. Ce soir, exit la fameuse commission. Les services du Premier ministre précisent que la réécriture d'une disposition législative ne saurait relever que du Parlement.
Il était temps, effectivement, car Jean Castex a été la cible de toutes les critiques depuis ce matin. Tour à tour, deux des plus hauts personnages de l'État, Richard Ferrand d'abord, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Ils lui ont demandé de renoncer.
Et d'où finalement ce rétropédalage, salué ce soir par Pierre-Alexandre Anglade, député porte-parole du groupe La République En Marche et membre de la Commission des lois.
C'est une clarification qui était absolument nécessaire. Clarification de la part du gouvernement qui précise que cette commission n'aura pas à se substituer au travail parlementaire. Et donc c'est un principe auquel nous sommes extrêmement attachés et que nous avons défendu aujourd'hui avec vigueur et qui a été entendu par le Premier ministre et par le gouvernement. Et donc ce soir, on est effectivement satisfait. Il faut savoir avancer. Il y a un débat parlementaire qui va se poursuivre sur la loi sécurité globale et sur l'article 24. Et donc il appartient au Parlement de corriger ou non cet article 24 s'il l'estime nécessaire, mais à personne d'autre. La majorité est fermement en soutien du Premier ministre et du gouvernement, et cela ne va pas changer dans les jours ou dans les semaines à venir. Le soutien du groupe majoritaire de La République En Marche au Premier ministre est total et il continuera dans les semaines et les mois à venir.
Le porte-parole du groupe La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, joint pour Europe 1 par Adrien Beck.
Les quatre policiers mis en cause dans l'interpellation violente d'un producteur de musique samedi à Paris sont actuellement en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, entendus pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste.
Alors qu'une nouvelle vidéo publiée aujourd'hui montre cette fois de façon plus claire la fin de la séquence après le tabassage en règle de Michel Zecler dans son studio de production.
Oui, on le voit traîner à l'extérieur par les policiers qui ont appelé des renforts, nombreux, une demi-douzaine de personnes.
Et il est, là encore, violemment frappé sur le trottoir, au moins à 7 reprises, notamment par un policier en civil, et toujours sans qu'il oppose la moindre résistance. Image absolument saisissante de cet homme à genoux qui hurle dans la rue.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, des sanctions contre la Turquie. Ça fait un moment que c'est dans l'air, eh bien ça se précise.
Et oui, le Parlement européen a voté hier une résolution qui invite l'exécutif européen à une extrême fermeté. Et on en parle ce soir, bien sûr, avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors les députés européens condamnent les récentes provocations de Recep Tayyip Erdogan et parlent d'un comportement illégal et unilatéral, notamment sur le dossier chypriote.
Absolument, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette récente décision turque de carrément coloniser une ancienne station balnéaire chypriote, la ville de Varosha, vidée de sa population grecque il y a 46 ans, en 1974, lorsque la Turquie a envahi le nord de Chypre pour y imposer un gouvernement à sa botte censé représenter les intérêts de la minorité turque de l'île. Et donc, depuis la fin de cette guerre, Varosha est devenue une ville fantôme sur la ligne d'armistice, avec des hôtels lépreux en front de mer, des immeubles décrépits, des maisons abandonnées, mais qui sont légalement protégés par les Nations Unies, la résolution 550, qui prévoit justement que seuls ces anciens résidents pourront y être réinstallés quand sera signé un plan de paix définitif entre la République de Chypre, rappelons-le, membre de l'Union européenne, et cette entité turcophone mise en place par Ankara, qui n'est reconnue par aucun pays au monde. Le problème, à part évidemment par la Turquie, le problème c'est que le président Recep Erdogan a décidé de repeupler Varosha avec des chypriotes d'origine turque pour y développer un gigantesque complexe touristique, et cela en totale contradiction avec les règles de droit fixées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est la raison pour laquelle les parlementaires européens ont lancé cet appel à des sanctions économiques fortes contre la Turquie.
Sachant que les résolutions du Parlement européen ne sont pas obligatoirement suivies par le Conseil de l'Europe.
Absolument, c'est un vote essentiellement symbolique, mais qui est loin d'être anecdotique. D'abord parce qu'il tombe à point nommé, à moins de 2 semaines du sommet de Bruxelles, au cours duquel plusieurs pays, dont la France, proposeront l'adoption de sanctions économiques contre la Turquie si son président s'enferre dans sa politique de menace systématique et de confrontation. Et puis ensuite parce que cette résolution a été adoptée à une très large majorité, 631 voix contre 3 et 59 abstentions. Donc par l'ensemble des groupes parlementaires, elle est une indication assez claire d'un sentiment largement partagé dans les opinions publiques en Europe. On ne peut pas en même temps rudoyer un pays membre de l'Union et réclamer son adhésion à l'Europe.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Les sports, le foot, France-Autriche ce soir, c'est à 21h. Qualification pour l'Euro féminin 2022. En cas de victoire, les Françaises seraient assurées d'y participer. En Ligue 1, 12e journée, Strasbourg-Rennes. Ce soir, 21h, la Ligue qui va rendre hommage à Maradona. Tous les joueurs se regrouperont pour former un M géant sur la pelouse avant le coup d'envoi.
Et à propos de foot, une nouveauté demain pour les joueurs du PSG qui affronteront Bordeaux.
Le
Pourquoi
Parc
une nouveauté
des Princes, parce que le Parc des Princes résonnera de nouveau de chants de supporters. Alors non, on n'est pas en train de vous annoncer que les tribunes vont rouvrir. Julien Froment, les responsables du club, estiment simplement que c'est trop triste et trop dur de jouer dans un stade vide.
Oui, voilà, car ce qu'on entend, ce que les joueurs entendent sur la pelouse du Parc des Princes depuis 3 mois, c'est ça. Des échos de voix, des bruits de ballons et face à eux, des travées désespérément vides, pas de drapeau, pas d'écharpe, donc pas de chant pour les pousser. Pour y remédier, le Parc des Princes va diffuser cette bande sonore. Ce que vous entendez, ce sont des chants authentiques des ultras du Virage Auteuil, un moyen de rassurer les joueurs pour Denis Troche, préparateur mental.
Pour la confiance en soi ou pour la confiance, la grande confiance de chacun d'entre nous, on a besoin de repères. La confiance qu'on appelle la confiance en la situation. Retrouver quelque chose qui ressemblera à ce que l'on va vivre. Et là, on est moins perdu. Quelque part, on a l'impression d'être un peu nu quand on est sans public et sans son. Eh bien, là, on se rapproche d'un match normal.
Alors, un test grandeur nature a été effectué la semaine dernière à l'occasion du PSG Lyon féminin et c'est concluant pour les dirigeants du club. En tout cas, il n'y aura que des chants à la gloire des Parisiens, rien pour l'adversaire bordelais qui, lui, en revanche, accueillera Paris avec du public et des vrais supporters le 7 mars prochain, si les conditions sanitaires le permettent.
Évidemment. Merci Julien Froment du service des sports. Une dernière minute. En ski alpin, le Français Alexis Pinturault vient de remporter le parallèle de Coupe du Monde de Lech. C'est en Autriche et c'est sa 30e victoire.
Merci Bravo. Isabelle, bon week-end, pas bon de folie dans les commerces hein.
Non, surtout pas.
Pas trop de folie dans les commerces. Et vous aussi Anissa, pas
non,
trop de folie ce week-end.
Balade.
C'est pas parce que les commerces sont ouverts qu'il
non.
faut y aller sur la carte bleue.
On sera calme.
Bien. Alors, 3 départements en vigilance orange. Demain,
oui.
C'est ce qui nous intéresse.
Prudence dans le sud, effectivement, Julien. Demain, les Pyrénées-Orientales et les 2 départements Corse sont concernés par cette vigilance orange pluie-inondation. L'épisode pluvieux qui a commencé hier est en train de se poursuivre et ça va durer encore ce soir, cette nuit et demain dans le sud. Ça concerne les départements du Languedoc, de l'Aude, de l'Hérault. Le Roussillon est également concerné et les 2 départements Corse où là nous avons de la pluie très soutenue demain matin, des coups de tonnerre dans l'après-midi, les pluies vont s'intensifier sur la Provence et la Côte d'Azur. Le ciel est couvert mais là les pluies sont plus faibles et partout ailleurs encore pas mal de brouillard le matin et dans l'après-midi vous allez pouvoir en profiter pour vous balader, prendre l'air puisque nous aurons un grand soleil dominant sur la France, un vrai temps d'automne, du soleil et du frais.
Et bien tant mieux parce qu'on aura le droit de se balader un peu plus que d'habitude.
Exactement, moins 2 à 13 degrés demain matin.
Bien, merci Anissa, bon week-end.
Bon week-end,
qu'est-ce
à lundi.
Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, vous ?
Eh bien, je crois que je vais sortir les habits d'hiver, puisque lundi, nous aurons des températures négatives, par exemple,
aïe,
à Paris.
Aïe, aïe, aïe,
je vous ai cassé le moral.
Bah oui, complètement.
Bon week-end.
Merci, bon week-end à vous, en tout cas.